Alors bonjour à chacun. Encore en forme, ça va? Alors on va prendre la deuxième partie de l'épître aux Galates. La dernière fois on a vu que l'épître aux Galates a 6 chapitres.
Dans
les deux premiers chapitres, l'apôtre Paul défend son apostolat. Parce que dans les assemblées de Galatie, il y avait des faux frères qui s'étaient introduits. Et qui introduisait des fausses doctrines par rapport à la loi et la foi.
Et
il dénigrait l'apôtre
Paul.
Et dans les chapitres 3 et 4, l'apôtre Paul défend la justification par la foi. Il dit, on ne peut être sauvé que par la foi.
Et
il aimerait bien que les croyants de Galatie se souviennent de cela. C'est l'apôtre Paul qui les avait évangélisés. Et ils avaient reçu le salut gratuit par la foi. Et ils se demandent pourquoi, mais pourquoi est-ce que vous abandonnez cette foi? Et l'apôtre Paul prend aussi des arguments dans la Bible. Il parle d'Abraham à qui Dieu a parlé directement. Dieu a fait des promesses à Abraham. Et Abraham a cru Dieu et il était justifié par cette foi. L'apôtre Paul parle aussi de la loi qui
a
été introduite beaucoup plus tard.
Et ce n'est
pas Dieu qui l'a communiqué directement. Il y a eu des intermédiaires. Il nous dit il y a eu les anges, Moïse, le peuple.
Et
il nous dit que la justification par la foi est supérieure à toutes ces œuvres de
l'homme.
Et on va terminer le chapitre 3. On peut lire dans chapitre 3, le verset
23.
Galates 3, verset 23. Et il dit aux Galates, avant que la foi vienne, vous étiez prisonnier ou esclave de la loi. Parce que la loi exige beaucoup. Mais maintenant, il y a eu un changement. On lit le verset 26.
Wajita kuja dalam kini itu Yesus. Donc il disait, sous la loi, vous étiez prisonniers, esclaves
de la loi.
Mais par la foi, vous êtes maintenant fils de Dieu, ou enfant de Dieu. On voit que la foi nous met directement en relation avec Dieu. C'est un énorme privilège.
Et
c'est à comparer avec la loi où il y a Dieu, il y a moi, et entre les deux, il y a la loi. Et maintenant, nous avons cette relation directe avec Dieu. Et il nous dit que par la foi, on est aussi héritier. On est héritier selon la promesse de Dieu faite à Abraham. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en
Jésus-Christ.
Et l'apôtre Paul va rebondir sur cette position d'héritier ou de fils de Dieu. Comment est-ce qu'on est devenu fils de Dieu? Alors, à l'époque des Romains, quand l'apôtre Paul vivait, il y avait des familles où il y avait un maître de maison, le père, disons, qui avait des enfants. Et quand le maître meurt, c'est les enfants qui héritent, qui reçoivent les biens matériels. Mais peut-être dans cette famille, il y avait aussi un serviteur, un esclave. Et les serviteurs, les esclaves n'avaient aucun droit. Mais les lois disaient que si le maître décidait qu'il pouvait adopter l'esclave, il deviendrait comme un fils. Et si l'esclave était adopté, il n'y avait plus de différence dans la famille entre les vrai enfant et l'enfant adopté. Alors dans le chapitre 4, on va lire les versets 4 et 5. Alors on voit que grâce à l'œuvre de justification du Seigneur Jésus, on a été racheté. On a été racheté, ce qui nous permet d'appeler Dieu notre Père. C'est ce qui est dit au verset 6, parce qu'on est des fils. Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils. Et on peut dire Abba Père. C'est cette position d'enfant de Dieu que le Seigneur nous a permis à laquelle le Seigneur nous a permis d'accéder. Donc on voit, c'est une relation nouvelle pour ceux qui ont le salut. Ils peuvent appeler Dieu leur Père. Et dans les versets suivants, l'apôtre Paul est un peu perplexe, il pose des questions. Pourquoi vous galates qui une fois avaient été vraiment enfants de Dieu? Vous voulez de nouveau retourner sous la loi. Et il leur dit, mais quand j'ai été vous évangéliser, avant vous avez servi des idoles. Vous étiez esclaves de ces idoles. Et vous avez accepté avec joie le salut par la foi. Comment ça se fait que maintenant, vous pensiez à retourner sous la loi? Alors que vous avez cette grande liberté d'enfant de Dieu. Alors qu'est-ce qui les a influencés pour retourner sous la loi? Comment est-ce qu'un retour en arrière est-il possible? C'est l'apôtre Paul qui se pose la question. Et dans les versets 12 à 20, l'apôtre chapitre 4. L'apôtre Paul a des bons souvenirs. Il avait eu des bonnes relations avec les Galates. On peut lire les versets chapitre 4, verset 14. Et 15.
Oui.
Alors il s'était passé quelque chose d'extraordinaire, je pense que l'apôtre Paul avait une maladie ou quelque chose comme ça. Et les croyants de Galatie avaient montré beaucoup d'aide et d'empressement pour l'apôtre Paul. Il dit, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu. Comme un ange, comme un messager de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Et on voit que l'apôtre Paul a quand même beaucoup de cœur et d'amour pour les croyants de
Galatie.
Au verset 12, il parle de ses frères. Au verset 19, il parle de mes enfants. Mes enfants pour lesquels je souffre maintenant. Donc il montre beaucoup d'amour pour les croyants de
Galatie.
Parce qu'il aimerait tellement que ces croyants ouvrent leurs yeux et voient. Que se remettre sous la loi, c'était un retour en arrière. Et chapitre 4, verset 17, il mentionne ceux qui s'opposent à l'apôtre Paul, les faux frères. Leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous séparer de l'apôtre Paul afin que vous soyez zélés pour eux. En d'autres mots, ils vont amener la division.
Et ce n'est
pas des personnes qui avaient un grand amour pour les croyants de Galatie. Donc les détracteurs étaient très zélés, mais c'était pour attirer des adeptes. Les versets suivants c'est un peu difficile à comprendre, c'est les versets chapitre 4, versets 21 à 27. L'apôtre Paul parle de deux descendants à Abraham. On sait qu'Abraham a eu deux fils. Et le premier était le fils d'Agar, sa servante, une esclave. Et l'autre fils, c'était le fils de Sarah. C'était le fils de la promesse. C'était un fils qui était né de manière miraculeuse. Parce que Dieu avait promis à Isaac et Sarah qu'ils auraient un fils, les deux. Et ce fils est né quand Sarah n'était biologiquement plus capable d'avoir des enfants. Et il dit que le premier fils Ismaël de la servante, il était né selon la chair, selon la nature humaine. Et cela représente la naissance sous la loi. Tandis qu'Isaac était né de la femme libre. Était né sous la promesse. Et c'est de cette lignée-là que sont les croyants qui sont justifiés par la foi. Donc il y a deux descendances et il faut prendre ça un peu comme des images. Mais il faut se souvenir d'une chose, c'est que les croyants sont descendants de la femme libre. Verset 31. Dernier verset du chapitre 4. Donc nous sommes nés de la femme libre, c'est un symbole. Ce qui conduit l'apôtre Paul à parler de la liberté. Pour Vous voyez qu'on a abordé les chapitres 5 et 6.
Et
dans
ces
chapitres
6,
c'est un peu la mise en pratique. Et l'apôtre Paul va défendre la liberté en Christ. Nous lisons le verset 1 du chapitre 5.
Je te parle en vain sur aucun pala ou à chapitre Moïse, non?
Donc c'est la liberté en Christ, tenir ferme à cette liberté. Donc il faut choisir, nous dit l'apôtre
Paul.
Ou bien je choisis Christ et la liberté. Ou bien je choisis la loi et je retourne dans cette servitude. Chapitre
5,
verset
4.
Nous lisons les versets 4 et 5. Donc l'apôtre Paul parle du légalisme.
Et
ses faux frères qui étaient légalistes, judaïsants, ils ne rejettent pas Christ et son œuvre. Mais ils veulent y ajouter quelque chose de personnel. Et en voulant ajouter un peu de loi au salut, on perd tout. Le verset 4 commence, vous êtes séparés de Christ. Si je me remets sous la loi, je n'ai plus cette relation personnelle avec Christ. Et il ajoute, vous êtes déchus de la grâce. De la grâce qui est à la base la justification par la foi. Et si les légalistes pensent qu'on peut ajouter par des œuvres, aider à son salut, en fait, il rejette l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Pourquoi? Jésus à la croix a tout accompli. Son œuvre était parfaite. Il n'y avait rien à ajouter, rien à retranscrire. Et on voit que quand on est légaliste, ils disent, ben son œuvre, oui, c'était bien. Mais elle n'était pas parfaite, parce qu'avec mes œuvres, je peux faire quelque chose. Donc, on pourrait juste aller jusqu'à dire que c'est presque une injure à Jésus-Christ. Et lui dire, non, ton œuvre n'était pas parfaite. On va y ajouter nos bonnes œuvres. Donc la mise en pratique commence par cette libération de la loi. Et la loi, on y obéit par amour ou par devoir. L'autre question, au Seigneur, à Jésus, est-ce qu'on lui obéit par amour ou par devoir? À Jésus-Christ, on obéit par amour. Parce que mais à la loi, on doit obéir par devoir. Tu dois faire ça. Parce que si tu ne fais pas tout ça, tu seras puni. Il y aura une conséquence mauvaise. On voit que la relation du croyant avec le Père, avec Jésus, est une relation basée sur l'amour. Et ensuite, il avertit les Galates en leur disant, mais faites attention à ceux qui viennent vous apporter autre chose que cette
évangile.
Et au chapitre 5, verset
9,
il dit, un peu de levain fait lever toute la
pâte.
C'est-à-dire, même une seule personne qui apporte une fausse doctrine une seule personne arrive à semer le trouble dans une assemblée. Faites attention, réfléchissez. Maintenant, on va passer au verset 13. Où il est fait allusion à cette liberté. Parce qu'au début du chapitre, il est dit, mais c'est pour la liberté que Christ nous a
affranchis.
Mais on peut mal comprendre cette liberté. Ça peut devenir un prétexte pour faire ce que je veux. Comme dit l'apôtre Paul, avec des désirs de notre nature propre, de notre nature humaine. Et si je profite de cette liberté comme ça, il y aura beaucoup de divisions et de disputes. Et l'apôtre Paul suggère avec des expressions assez fortes si vous pensez que la liberté c'est ça, vous allez vous mordre et vous dévorer les uns les autres. Et vous finirez par vous détruire. Mais l'apôtre Paul dit, mais la vraie liberté, c'est quelque chose d'autre. Il dit à la fin du verset 13, soyez par amour serviteurs les uns des autres. On voit que la base de la foi, c'est sur l'amour.
Et
ça régime nos relations les uns avec les autres. Et puis, il mentionne que même dans la loi, c'est mis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, comment vivre cette liberté comme croyant? On va lire les versets très importants du chapitre 5, versets 16 et 17.
Non. 16 à 18. 16 à 18. Non, 16 à 18.
Donc, voici donc ce que je vous dis, marchez par l'esprit. C'est un ordre, marchez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, être conduit par l'esprit, ça suppose que je désire entendre la parole de Dieu. Pas seulement l'entendre et la connaître, mais il faut aussi avoir la volonté ou le désir d'y obéir. C'est ça, écouter la parole de Dieu et y obéir. Dans la vie de tous les jours, c'est vivre par l'esprit. On peut ajouter aussi, c'est rechercher des solutions dans la prière. Et alors, si je vis par l'esprit, je serai conduit par l'esprit, et ce sera visible autour de moi. Il y aura des fruits, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Mais d'abord, il parle des œuvres de la nature humaine, verset
19.
Quel est le fruit ou les fruits de la nature humaine? Alors l'apôtre Paul donne toute une série d'exemples. La pureté, l'idolâtrie. La magie, les jalousies, les colères. Les divisions, les sectes. c'est toutes ces choses qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Tout cela est décrit dans les versets 19 à
21.
Oui, du chapitre 5. Mais maintenant, les versets 22 et 23, on va les lire ensemble.
Italala lutulu luse wimbe buna mukiji walulamatu kujikweketa kujikanda kakwena mukandu umalwala.
Alors on voit que le fruit de l'esprit, c'est l'action de l'esprit en nous. Ça me permettra de reproduire les traits de caractère du Seigneur Jésus.
Donc
il faut se laisser imprégner par la personne du Seigneur. Et pour ça, il faut bien le connaître. Il faut l'aimer, se souvenir de lui, et vouloir l'imiter. Personnellement, j'aime beaucoup lire les évangiles. Et voir comment Dieu, comment Jésus a rencontré beaucoup de personnes différentes. Et chaque fois, il a eu une attitude où il montrait qu'il aimait son prochain. Où il exprimait sa patience, sa bonté, la maîtrise de soi, etc. Et à propos de ce fruit de l'esprit, il y a la douceur. Et la parole de Dieu nous dit que, par exemple, Moïse, qui était un grand chef, était quelqu'un qui était très doux. Donc c'est un caractère d'humilité. Et quelqu'un qui n'insiste pas sur ses droits. Quelqu'un qui ne veut pas toujours avoir raison. C'est un caractère aussi très important pour le service pastoral. Et ça, c'est comme introduction au chapitre
6.
Où l'apôtre Paul va parler un peu du service pastoral dans l'église. Et le premier problème qu'il y a eu, un homme a été surpris en faute. Il dit, vous qui êtes spirituel, vous qui marchez par l'esprit, redressez-le dans un esprit de douceur. Alors on peut voir la différence entre la loi et la foi.
Et
si je suis légaliste et quelqu'un fait une faute, j'aurais tendance à dire, ah mais c'est bien fait, t'as fait quelque chose de mal.
Voilà,
t'es puni.
Ah,
tu seras puni, on va te mettre à l'écart. Mais celui qui marche par l'esprit aime ce frère et aimerait qu'il soit de nouveau redressé. Qu'il soit de nouveau utile dans le royaume de Dieu. Et à propos de l'esprit de douceur, j'aimerais citer un verset dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est un livre qu'on va étudier ensemble cette semaine. Et dans Ésaïe, il est parlé plusieurs fois d'un serviteur. Qui présente cet esprit de douceur ou cet esprit de patience. Et dont il faut nous inspirer parce que souvent nos sentiments, nos émotions nous attirent dans un autre sens. Alors on peut lire Ésaïe 42,
versets
1 à
3.
Oui. On voit qu'il ne criera pas. Il ne hausera pas le ton. Ça veut dire qu'il ne se mettra pas en colère. Il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Moi, ça me fait penser, quand il y a quelque chose de difficile dans une assemblée, il
n'y
a pas besoin d'en parler partout. Il faut garder ça entre nous.
Il ne
faut pas le faire entendre partout dans les rues. Et on voit ce frère qui avait péché. Peut-être qu'il était triste. Il regrettait ce qu'il avait fait. Il a besoin d'encouragement. On ne va pas encore l'écraser plus. Comme dit Esaïe, il ne faut pas casser le roseau abîmé, le roseau faible. Il
ne
faut pas éteindre la flamme qui fume encore. Donc il y a de la fumée, du feu. On peut faire revenir la flamme. sur la bougie ou la lampe à huile. Voilà un fruit de l'esprit, par exemple. Et puis aussi, le fruit de l'esprit s'exprime au verset 2 du chapitre 6. Porter les charges les uns des autres. Ça veut dire encouragez-vous les uns les autres. C'est vrai qu'on peut traverser des circonstances difficiles. On peut connaître le deuil, la maladie, des déceptions. On peut se sentir seul. On a des soucis qui nous préoccupent. Et c'est là où il faut avoir du discernement. Pour partager les charges. Parce qu'une charge, c'est un fardeau pesant qui est moins lourd quand on le porte à deux ou à plusieurs. Une autre manifestation de l'esprit, il est juste mentionné que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est le chapitre 6, verset 6. Il y a d'autres versets dans la Bible, dans le Nouveau Testament qui mentionnent ça aussi. Alors, il faut penser à ceux qui travaillent pour le Seigneur. Même si des fois dans certaines églises, il y a beaucoup d'abus. Je crois beaucoup d'abus dans ces églises où on prêche la prospérité.
Église ya bunyi ngekelezi akabaka mumiko bunanga bajiba yeshapane jijunda mubintu mubyuma jinema jiya kumpala.
L'apôtre Paul parle aussi de semailles et de moissons.
Apase mpostolo Paul yakabyuko kulenanga nanga babijibitangila munowi ni yakunowa.
Dans les versets 7 à 10. On peut les lire ensemble, on a le temps. Alors voilà, il parlait de semailles, de semer et de moissonner.
Apa, mukonye ne munowi ne bi yakunowa munowi ne bi yakunowa.
C'est quelque chose que vous comprenez certainement mieux que beaucoup d'enfants chez nous, dans nos villes. Dans nos villes, on vit entre quatre murs des fois.
Il n'y
a pas de jardin. On récolte pas le maïs dans les champs. On va l'acheter au magasin. On n'a plus tellement conscience de tous ces rythmes de la vie et des saisons.
Mais
l'apôtre Paul dit, faites attention. On récolte ce qu'on a semé. Si
je
n'ai pas semé, il n'y aura pas de récolte. Si vous semez de la mauvaise graine, votre récolte sera mauvaise. Mais si vous semez de la bonne graine, nous récolterons beaucoup de fruits. Alors que semons-nous? Par exemple, celui qui sème pour satisfaire sa nature propre. Si je sème seulement par égoïsme pour moi, pour tout garder pour moi, je sème pour attirer l'attention sur moi. Alors, Jésus donne quelques exemples, ce que ça peut représenter, semer pour soi-même. Parce qu'on peut semer pour avoir une apparence spirituelle. On peut semer pour être bien vu par les autres. Et par exemple, Jésus, dans Matthieu 6, dans le chapitre 6, les versets 1 à 8, il dit, mais voyez, il y a des gens qui prient devant tout le monde. Ils prient des heures debout. Pour attirer l'attention sur eux et faire croire qu'ils sont très spirituels. Il y en a d'autres qui font des dons et ils montrent exprès combien ils donnent beaucoup pour attirer l'attention sur eux. Mais voilà, ça, qu'est-ce qu'on récoltera? C'est la ruine. La récolte est pour notre vie sur la terre. Mais elle se perdra. Mais l'apôtre Paul dit, mais semez pour l'esprit. Semer pour l'esprit, rechercher un fruit. Ça commence par une bonne relation avec le Seigneur. Ça commence aussi, il faut cultiver cette communion avec le Seigneur. Et puis aussi rechercher le bien des autres. on voit que cet esprit est différent de l'esprit légaliste. Et rechercher le bien des autres, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et on verra que la récolte, ce n'est pas une récolte pour cette terre. Ou plutôt, pas seulement pour cette terre. Mais il y aura une récolte pour l'éternité. C'est ce que l'apôtre Paul dit, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit. Et la récolte, c'est la vie éternelle. Donc c'est la mise en pratique de cette vie par l'esprit. Chapitre 6, verset 11. L'apôtre Paul arrive à la fin de sa lettre. Et il certifie que c'est lui qui l'a écrite. On lit le verset 11. On dit que l'apôtre Paul avait peut-être des problèmes avec les yeux.
Et
il a écrit cette lettre avec des grosses... avec des grosses lettres.
Ah, yeye wakaji mu yokukeba mucho mukanda wa maya bunyi. Baje baje ni wakafunda mukande ni bi maleta binene.
Mais c'est pas ça qui est important.
Kajaji kiti bunyi mushinga ko tujito.
On voit que l'apôtre Paul portait ces chrétiens dans son cœur.
Kajaji kiti bunyi mupostolo Paul wakaji mutwa le bene ku isabuja bene Kristo aba mu moyo wende.
Et il avait pris cette le temps et pour vraiment écrire une lettre personnelle. Et à partir du chapitre 6, verset 12 jusqu'à la fin, c'est la conclusion. Il y a une salutation. Mais il mentionne encore juste les caractéristiques des légalistes. Ils disent, faites attention. Parce que ces légalistes veulent que vous soyez circoncis. Pourquoi ? Pour pouvoir tirer fierté de votre corps. Donc ils veulent imposer des choses pour se glorifier après. Se glorifier d'avoir des adeptes. D'avoir fait des prosélytes. Peut-être même qu'ils aient des statistiques.
Aujourd'hui,
j'ai attiré tant de chrétiens. On voit que leur motivation est mauvaise.
Et
s'ils veulent se glorifier dans leurs statistiques, lui, l'apôtre Paul, il dit, mais moi je me glorifie dans la croix de Christ. L'apôtre Paul aurait eu beaucoup de raisons de se glorifier. Il avait été il connaissait toute la loi. Il avait étudié la loi de nombreuses années. Il avait été à l'école très longtemps. Mais il dit, mais toutes ces choses, pour moi, ne comptent plus. J'ai plus qu'une chose dans ma vie, c'est la croix de Jésus-Christ. Par la croix, il était libéré du monde. Libéré de cet esclavage du monde. Libéré de la loi, de la tradition de ses ancêtres. Libéré de toutes ces choses qui l'avaient poussé à persécuter l'Assemblée. On lit le verset
15.
Donc c'est la seule chose qui a de l'importance pour l'apôtre
Paul,
c'est que par la foi il est devenu une nouvelle créature. Elle veut dire Christ est en moi. Christ habite en moi. Et je peux vivre par l'Esprit. La croix est aussi la base de la paix du croyant. Il dit au verset 16, « Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle. » Donc il a trouvé toute la réponse à ces questions dans la foi et la justification par la foi. Et au verset 17, il exprime encore un sentiment. Que personne désormais ne me fasse de peine. Car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que veut dire l'apôtre Paul par là? Les légalistes, les judaïsants, pour eux c'était très important d'avoir la circoncision. D'avoir une marque dans son corps pour pouvoir tirer fierté de leur corps. Ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que les autres parce qu'ils étaient circoncis. Mais l'apôtre Paul rejette tout ça. Et il dit, si il y a une marque sur mon corps qui est importante, c'est les marques que je porte parce que pour la foi que je défends. J'ai été battu. J'ai souffert. Peut-être qu'il avait des cicatrices dans son dos. Mais pour lui, c'est ça qui comptait, la foi en Jésus-Christ. Et la dernière phrase, comment il parle à ses frères. Il avait commencé le chapitre 6 par frères ou frères et sœurs au pluriel. Il dit, Donc il exprime toujours son affection. Mais la fin est assez abrupte. Dans d'autres lettres qu'il a écrites, l'apôtre Paul profitait d'une lettre pour saluer encore certaines
personnes.
Il connaissait beaucoup de personnes, il avait travaillé avec il avait eu beaucoup de collaborateurs. Et souvent il disait saluer encore celui-là et puis donner un.
Etc.
Comme une relation d'amitié. Mais ici il s'arrête par cette phrase très courte. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.
Amen.
Alors je vais m'arrêter là.
Ok.